Bonjour, et nous sommes bénis ce matin d'être ensemble à ce dernier jour de 2017. Et nous voulons bénir le Seigneur pour cela, parce que sous peu, peut-être nous voudrions crier « Vive 2018 » et puis dire au revoir à 2017. Mais les années s'achèvent et puis d'autres années reprennent, mais en réalité c'est ce que Dieu veut. Parce que la Bible déclare dans le livre de Genèse 1, au verset 14 au verset 15, la Bible déclare que Dieu a créé les grands luminaires, c'est-à-dire le soleil, la lune, pour permettre que les temps soient marqués, que les époques soient marquées, que les saisons aussi soient marquées. Cela constitue pour nous donc un signe. Donc c'est normal que les années passent, c'est-à-dire que 2017 finisse et que nous puissions passer donc à 2018. Et durant ces périodes, généralement, nous formons et formulons des vœux, des souhaits de bonne santé, de prospérité, de richesse et tout cela. Et certains vont plus loin. Au lieu de s'arrêter simplement aux paroles qu'on va dire, peut-être qu'ils viennent de nos cœurs, des fois même qu'ils ne viennent même pas des cœurs. Mais certains vont aller plus loin pour savoir ce que leur réserve 2018. Donc, dans cette démarche-là, des voyants seront consultés pour voir qu'est-ce que nous réserve 2018. Non seulement des voyants, on va se tourner vers les signes astrologiques, le zodiaque démoniaque astrologique, c'est-à-dire l'horoscope et tout ça, pour savoir ce que 2018 nous réserve. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait dans cette démarche-là? Je disais à mon épouse, je me souviens qu'il est arrivé à une époque, c'est vrai en tant que chrétien, mais j'achetais seulement un journal juste pour voir ce que l'horoscope disait. Parce que des fois, on dit nous sommes poissons, nous sommes béliers ou quoi que ce soit, mais les poissons, on les mange en réalité. Et donc, pour dire effectivement que des fois, on peut être pris au piège de cette mouvance-là. Donc, on veut savoir ce que 2018 ou ce que l'année nouvelle nous réserve. D'autres encore vont peut-être invoquer peut-être des eaux, des rivières, même les astres, le soleil. Donc, la créature va prendre la place du créateur. Tout cela dans la quête de savoir ce que l'année nouvelle nous réserve. Le bonheur, la prospérité, la paix. Qu'est-ce que 2018 me réserve? Et qu'est-ce que 2018 te réserve? Mais comment a été d'abord 2017? Certainement, 2017 a été une année pleine de grâce, comme on l'a dit. Mais certainement, 2017 a été une année aussi d'épreuve. Mais quelle leçon ai-je tirée de cette épreuve par laquelle le Seigneur m'a fait passer? 2017 a été certainement pour des couples une période très difficile. Est-ce que j'ai tiré des leçons de cela pour améliorer 2018? Peut-être au niveau de ma santé, 2017 a été très éprouvante. Peut-être dans ma relation avec mon épouse ou dans ma relation avec les enfants, 2017 n'a pas été peut-être une année rayonnante, comme je l'aurais souhaité. Pourtant, à la fin de 2016, j'espérais que 2017 serait meilleur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelles sont les instructions que le Seigneur nous donne pour une meilleure année 2018? Et donc, l'auteur des temps, donc Dieu lui-même, qui a marqué les saisons par les grands luminaires, parce qu'il voudrait qu'on s'en souvienne, voudrait aussi que nous puissions amasser des trésors dans le ciel et que nous puissions lui faire confiance pour 2018, car il saura prendre soin de nous. Donc, amassons-nous des trésors dans le ciel, car le Seigneur saura prendre soin de nous en 2018. Le texte que je voudrais que nous puissions regarder aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 6, du verset 19 au verset 34. Il dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au fou, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Pour situer un peu notre texte, Jésus avait d'abord porté un regard sur l'enseignement des pharisiens. Et donc après qu'il ait porté le regard sur l'enseignement des pharisiens et des scribes, donc des hommes de loi qui étaient censés dire les choses de Dieu comme il se doit, il va aussi porter maintenant un regard sur leurs pratiques qu'il a considérées hypocrites. Donc contraire à ce que Dieu voulait que ces hommes-là puissent avoir. Et ces enseignements-là portaient sur l'aumône, sur la prière, sur le jeûne, qui au lieu d'être tourné vers Dieu, plutôt on pratiquait ces choses-là pour se faire voir. Donc suite à cela, Jésus maintenant va mettre l'accent sur leur rapport, donc notre rapport avec la richesse. Nous voulons voir dans ce texte, nous allons le regarder sous quatre angles. D'abord, le premier, c'est que Jésus compare les lieux où nous amassons les trésors et les risques qui accompagnent le lieu où nous amassons ces trésors-là. Nous verrons aussi notre cœur est attaché au lieu où se trouve notre trésor. Faisons confiance à Dieu pour nos besoins. Le troisième point, le quatrième point, Jésus nous encourage à ne pas nous inquiéter du lendemain. Lorsque nous regardons les versets 19 à 20, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Le trésor, lorsqu'on parle de trésor, c'est quoi? Je faisais exprès pendant que je préparais le message et puis j'appelle les deux plus petits, Éline et puis Jean-Michel qui étaient à côté de moi. Je leur dis, mais un trésor, c'est quoi? Pour voir un peu leur réaction. Et puis Éline me dit, mais un trésor, c'est de l'or. Et Jean-Michel me dit, mais un trésor, c'est un rubis. Donc, déjà, quand on parle de trésor, déjà dans la tête des enfants, ils voient des objets de valeur, ce qui est précieux. En effet, c'est ça. Un trésor, c'est ce qui nous coûte. C'est ce qui est précieux. Donc, les trésors sont des objets précieux, des objets de valeur, peut-être que l'on va chercher à cacher, afin que l'on ne puisse pas dérober. Celui qui a de l'or en ce moment parmi nous ne va pas laisser son or traîner. Il va le garder précieusement. Celui qui a un diamant, il ne va pas le laisser aussi traîner. Il va le garder. Non, ça c'est important, il va le garder. Parce que ça, de la valeur. Donc les trésors vont constituer des richesses pour ceux qui les possèdent. Donc, les pharisiens et le peuple va associer généralement les trésors ou la bénédiction, les richesses à la bénédiction que Dieu accorde à un individu. Donc, plus tu as de la richesse, plus on considère que Dieu est avec toi. Et moins tu as de la richesse, cela, mais lui-là, qu'est-ce qu'il a fait à Dieu? Puis il est comme ça. Donc, c'était le mode de pensée. Ce qui va faire qu'on serait donc engagé à une course effrénée de richesse, de recherche de richesse, je dirais matérielle, de trésor matériel. Mais le trésor, c'est aussi ce à quoi l'on est si attaché, de sorte que cela puisse prendre la place de Dieu dans notre cœur. Autant on sera attaché à, je dirais, à de l'or, à du diamant, à des pierres précieuses, parce qu'elles sont palpables, on peut les toucher. Autant un besoin spécifique ou un sentiment particulier au fond de moi, ou une réaction, une attitude particulière au fond de moi, je serais tellement attaché à cela que cela prendrait peut-être la place de Dieu dans mon cœur. Peut-être ce serait dans mes activités. Mon trésor peut-être va se retrouver dans une activité que j'aime tellement pratiquer que je n'ai même pas le temps pour Dieu. Et ces choses prennent la place de Dieu pour moi. C'est tellement cher, ça me coûte tellement. Cela aussi est peut-être un trésor. Au verset 19, le Seigneur nous dit de ne pas amasser des trésors sur la terre. Et il nous donne les raisons pour lesquelles il ne voudrait pas que nous puissions amasser les trésors sur la terre. Mais il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rue détruisent. Donc, il nous montre que les trésors que nous amassons sur terre sont à la merci de la rue, de la teigne, à la merci aussi des voleurs. Donc, ce sont des trésors qui sont non seulement éphémères, mais des fois, lorsque nous regardons l'actualité, le voleur, il arrive, non seulement il prend ton trésor, mais il prend aussi ta vie, il te tue. Donc, ces trésors-là ne sont pas en sécurité. Et des fois, nous-mêmes ne sommes même pas en sécurité avec ces trésors-là. Et le risque pour ces trésors, c'est qu'elles ne sont pas des trésors qui sont éternels. Aucune sécurité lorsque nous plaçons tous nos trésors sur la terre. Et il nous exhorte donc à placer nos trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel sont en sécurité. Oui, ils sont en sécurité parce que nous les plaçons en Dieu d'abord. Mais en réalité, quels sont ces trésors que le Seigneur nous encourage à placer dans le ciel? Certainement, c'est l'amour. Et nous avons dit au niveau de l'Église, l'amour, c'est l'action, en fait. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Petits enfants, n'aimez pas en parole. C'est l'un des trésors que le Seigneur voudrait que nous puissions placer dans le ciel. C'est le pardon. Combien de fois nous n'avons pas eu d'amertume dans nos cœurs et il nous est tellement difficile de pardonner à notre frère. Ça, c'est un trésor que nous pouvons capitaliser au ciel. C'est un esprit de partage. C'est un esprit de réconciliation. J'ai tellement été offensé qu'il m'est impossible de pardonner à mon frère ou à ma sœur. Des fois même, on va plus loin pour dire, même si Dieu descend, je ne pense pas que j'ai pardonné à mon frère. Mais le Seigneur nous dit, cet esprit de réconciliation-là fait partie des trésors qu'on peut placer au ciel. C'est donner un verre d'eau à quelqu'un. Comme dans Matthieu 10, 42, il est dit, le Seigneur dit, « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Oui, nous avons des trésors à placer au ciel. le trésor que nous pourrions placer aussi au ciel. C'est notre engagement dans l'œuvre. C'est la considération qu'on peut apporter à l'œuvre ou notre participation à la moisson qui est grande et pour laquelle il y a peu d'ouvriers. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Notre cœur serait attaché au lieu où se trouve notre trésor. Notre cœur sera attaché au lieu où se trouve notre trésor. Au verset 21, le Seigneur dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que ton trésor, il te coûte cher, il est important pour toi. Ce qui fait que ton cœur va là où est ton trésor. Parce que ton trésor a besoin d'être en sécurité. Ton trésor, c'est aussi des fois ton effort. Ton trésor, c'est aussi des fois ce qui va te prendre, je dirais, peut-être toute une vie. Mais ton cœur y sera. Et le Seigneur dit, attention, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc le Seigneur nous donne ici la raison pour laquelle nous devons amasser les trésors au ciel. Et le cœur est défini normalement comme un organe du corps qui régule la circulation sanguine. Donc le cœur, c'est la vie. Le cœur, il est vital pour notre vie de tous les jours, pour nos déplacements de tous les jours. Pour que nous soyons en bonne santé, le cœur, c'est un organe essentiel. Et c'est aussi le siège de nos émotions, le siège de nos décisions, le siège même de nos buts, de nos engagements. Et la Bible nous dit que c'est la source de la vie. Lorsque nous lisons Proverbe 4 au verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Donc, il dépasse le stade de ce que le cœur est seulement un organe physique, mais le cœur est le centre. De notre épanouissement. Le cœur est le centre de nos émotions, est le centre de nos décisions. Marc 7, 21 dit ceci, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Luc 6, 45. Notre cœur sera donc tourné vers notre trésor, vers là où nous plaçons notre trésor. Notre cœur sera tourné. Et il ajoute que nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois parce que l'un est le père de la vérité, et puis l'autre est le père du mensonge. Donc on ne peut pas être dans la vérité et puis servir le mensonge. Comme on ne peut pas être dans le mensonge et puis vouloir servir la vérité. Donc il nous fait la part des choses. Vous ne pouvez pas être avec Dieu et nous vous réjouir des œuvres du diable. Et lorsque nous continuons dans notre test, il dit au verset 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc ici, le Seigneur insiste pour nous montrer que là où est notre trésor, là aussi notre cœur ira. Donc si notre trésor est attaché aux richesses injustes, si notre trésor est attaché à tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, si notre trésor est attaché à tout ce qui intéresse, je dirais, le diable, mais notre cœur ira vers là-bas. Et tandis que notre cœur va vers là-bas, nous éloignons en réalité de Dieu. Donc, il nous demande de placer notre trésor dans le ciel afin que notre cœur puisse se tourner vers les choses de Dieu, afin que notre cœur puisse affectionner les choses d'en haut. Et il parle de Mammon et il parle de Dieu. Mais Mammon représente des richesses injustes. Au-delà des richesses injustes, Mammon représente un esprit. Parce que derrière ces richesses injustes-là, il y a un Dieu injuste, un esprit injuste qui est le diable. Est-ce que, en tant que chrétiens, nous ne devons pas acquérir des biens ou des richesses sur terre? Ça, c'est la question peut-être qu'on pourrait se poser en écoutant cela. Est-ce qu'en tant que chrétien, on ne peut pas faire des affaires et puis espérer prospérer? Oui, en tant que chrétien, on peut faire des affaires. En tant que chrétien, on peut avoir de la richesse. En tant que chrétien, on peut avoir beaucoup d'argent. Lorsque l'on regarde les hommes de Dieu, les hommes de foi auxquels on veut ressembler, lorsqu'on regarde David, on dit David était un roi, était un grand roi. Ça veut dire qu'il avait de la richesse. Lorsqu'on prend la vie d'Abraham, malgré les épreuves et tout cela, mais Abraham avait de la richesse. Lorsqu'on prend Joseph, il avait de la richesse. Il est parti, je dirais, de la vente à être établi comme second de Pharaon. Mais la différence, quel était leur rapport avec cette richesse-là? La différence, c'est qu'ils avaient confiance en Dieu, mais ils n'avaient pas confiance dans les richesses qu'ils possédaient. La différence, c'est que c'était leur richesse, c'était Dieu. Leur richesse n'était pas les créatures, ce n'était pas les biens matériels, parce qu'ils savaient que d'un moment à l'autre, ces biens-là peuvent disparaître. Le voleur peut venir dérober. La teigne peut toucher, si c'est des tissus de qualité haute, la teigne peut les prendre. Si c'est des métaux, mais la rouille va arriver. Il savait que le pourvoyeur de ces richesses-là, c'était Dieu. Mais pourquoi ne pas aller au pourvoyeur que d'avoir le regard fixé sur les richesses elles-mêmes? Quel est notre attachement aux richesses ou aux biens matériels? Quelle est notre attitude? Est-ce que notre trésor en réalité c'est Dieu, pourvoyeur de biens et de richesses? Et puis ce qui est vrai, c'est que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Amen. C'est ce qui est vrai. Mais on nous fera croire que l'or et l'argent appartiennent peut-être à un système, mais en réalité, c'est Dieu qui pourvoit. 1 Jean 2, 15, 17 dit: « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. » Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si nous regardons le modèle de foi, je dirais de nos pères dans la foi, nous pouvons placer des trésors dans le ciel, tout en sachant que Dieu s'occupera de nous et il prendra soin de nous. Et j'ai un frère qui me dit, quand tu travailles dans le champ de Dieu, Dieu aussi travaille dans ton champ. Lorsque tu fais des placements dans le champ de Dieu, Dieu fait des placements dans ton champ. C'est-à-dire, il prend soin de toi. La troisième partie, du verset 25 au verset 32, faisons confiance à Dieu pour nos besoins. Verset 25 à 32. Le Seigneur dit: « C'est pourquoi je vous dis, Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu réveille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au fou, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Donc ici, la première exhortation que le Seigneur lance, il dit ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et il nous donne des exemples. Il dit, mais regardez les oiseaux du ciel. Alors on lève les yeux et puis on regarde. C'est-à-dire, quand on regarde l'oiseau, on voit en même temps le ciel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel et tournez vos regards vers moi. Ces oiseaux que vous voyez en réalité, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, mais pourtant, leurs besoins sont pourvus. Deuxièmement, il nous dit, regardez à terre. Quand on regarde à terre, il dit, mais regardez les lits qui sont là, c'est des herbes, en fait. Il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme eux. À plus forte raison, vous. Ces oiseaux-là, qui ont de la valeur, certainement, devant Dieu. Mais vous, en tant qu'homme fait à mon image, ayant plus de valeur, à plus forte raison, je vais vous abandonner, je ne vais pas m'occuper de vous. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter, ni de ce que vous allez manger, parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu sait des fois que son nom est en jeu. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens et puis nous passons par des situations difficiles, lorsque nous sommes chrétiens, nous connaissons des épreuves. Mais il n'a jamais dit qu'on ne va pas connaître d'épreuves. Il n'a jamais dit qu'on ne connaîtrait pas de situations difficiles. Mais ce qu'il a dit, c'est que dans la détresse, quand on l'invoque, il nous répond, afin que son nom puisse être glorifié. Ce qu'il a dit, c'est que nous devons lui faire connaître nos besoins. Ce qu'il a dit, c'est qu'il prendra soin de nous. Il dit, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Comment sera 2018? Des fois, nous avons tellement été éprouvés dans les années précédentes que l'année qui arrive, nous l'appréhendons avec crainte, avec peur. Comment sera encore cette année 2018-là pour moi? Et l'année passée-là, c'était difficile. J'espère que cette année-là sera mon année. Et on va même écrire des fois sur des pancartes, 2018, l'année de mon année. 2018, ça c'est mon année de grâce, oui. Parce que le Seigneur est venu pour nous annoncer en réalité une année de grâce. Mais il n'a pas dit que peut-être que nous ne connaîtrons pas de difficultés, il n'a pas dit cela. Mais il dit en 2018, il est avec moi. Il dit en 2018, il est avec toi. Il dit en 2018... Quelles que soient les situations qui vont arriver, que ce soit des moments joyeux, que ce soit des moments de peine, dans tous ces moments-là, il est avec toi. 2018, le Seigneur est avec toi. Et quand tu comprends la chose de la sorte, tu peux dire 2018, c'est l'année de mon année. Parce que je sais que le Seigneur est avec moi en 2018. Le Seigneur marchera devant moi en 2018. On a chanté un cantique tantôt et puis les paroles sont tellement impressionnantes. qui nous parle des empreintes du pas du Seigneur. Nous marchons pas à pas dans ces empreintes. Quand il dépose un pied, quand il finit de déposer, quand il finit, c'est quand il enlève son empreinte, on marche dans son pied. Là, on est sûr de partir avec lui. Mais tant qu'on voudra nous-mêmes bâtir notre année nous-mêmes 2018, on connaîtra des déceptions. Tant qu'on voudra nous appuyer sur nous-mêmes pour planifier, pour organiser, sans compter sur Dieu, on sera déçu parce qu'on n'arrivera pas. 2018, le Seigneur dit qu'il est avec toi. Et il dit de ne pas t'inquiéter pour ta vie. Jésus montre comment Dieu nourrit les oiseaux du ciel, comment il les revêt, de façon, je dirais, particulière et spéciale. Pour toi aussi, il va faire pareil. Pour toi aussi, il va faire pareil. Lorsque nous voyons les versets suivants, du verset 33 au verset 34, il dit, je vais commencer au verset 32, il dit, « Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc Jésus nous demande d'avoir foi en Dieu pour pourvoir à nos besoins, car Dieu les connaît. Et la recommandation qu'il nous fait pour 2018 aussi, c'est que nous puissions chercher son royaume, c'est que nous puissions chercher sa justice. Et nos besoins, Dieu s'en charge. Donc ici, il montre, je vais dire, la chronologie de notre démarche. Il dit, cherchez premièrement. Donc, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc, ça, c'est la première démarche que nous devrions pouvoir faire pour 2018. C'est-à-dire notre attachement au Seigneur. Quelle est ma relation avec Dieu pour 2018? À quel niveau étais-je en 2017? Mais qu'est-ce que je peux améliorer pour 2018? J'ai commencé à avoir de la misère à faire mes méditations journalières. Et quand je me lève, je dis, ah, mais c'est difficile, je ne peux même pas méditer. Alors, j'ai dit, c'est simple, ce que je vais faire, 2018, je vais m'acheter un lecteur de la Bible. Donc, je change ma méthode, ma façon de méditer. Donc, les lecteurs de la Bible, c'est, je peux dire, c'est des guides qui vont donner donc, des passages bibliques à tous les jours. Et puis, que tu... Donc ça, c'est un moyen qu'on peut utiliser pour nous approcher de Dieu. Donc 2018, quelles sont les dispositions que je prends pour être plus proche de mon Père, pour être plus intime avec Dieu, dans ma marche avec Dieu, pour apprendre de lui davantage, pour connaître ses pensées? Comment a été ma relation en 2017 avec mon épouse? Mais qu'est-ce qui a marché dans notre relation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on a donné une place au Seigneur quand les choses n'allaient pas? Ou on voulait les résoudre par nous-mêmes? 2018, cette année, tu ne vas pas m'avoir. Voici là, je mets le Seigneur au devant pour prendre le contrôle de tout. Mon état de santé en 2017 était tellement difficile. Mais ma santé, Seigneur, elle est toujours dans ta souveraineté. Prends soin de moi. Fais ce que tu veux de moi. Prends soin de ma santé, Seigneur. J'ai besoin de toi, de ta souveraineté dans chaque domaine de ma vie. Parce que des fois, nos regards sont tellement gros, nos yeux sont tellement grands, que des fois, nos désirs même, sont même pas des besoins réels. Mais Dieu connaît nos réels besoins. Donc demandons à Dieu de prendre le contrôle de nos vies en 2018. et trouvons les moyens pour que 2018 soit une année qui améliore non seulement notre relation avec Dieu, mais une année qui améliore nos relations les uns envers les autres. Une année pendant laquelle je peux prendre du temps peut-être pour me souvenir de mon frère, de ma sœur, pour prier pour ces personnes-là. Une année pendant laquelle je peux décider peut-être d'investir dans la vie de quelqu'un par mon argent, par mes biens, par quelques dons que ce soit. Tout cela constitue des richesses dans le ciel. Lorsque nous lisons Matthieu 25, oui. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, peut-être. Oui, à partir du verset 31, il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui, il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Les justes répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Seigneur nous encourage non seulement à rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, il nous encourage à amasser nos trésors dans le ciel. Il nous encourage à amasser nos trésors dans le ciel et à faire confiance à Dieu pour 2018, car il saura prendre soin de nous. Dieu nous connaît et connaît nos besoins réels, mieux que nous-mêmes, et il veut en prendre soin. Dieu a le tracé de notre année 2018 entre ses mains. On n'a pas besoin de courir ça et là pour chercher ce que 2018 nous réserve. Autrefois, je le faisais, mais je n'ai plus besoin de ça parce que Jésus m'a libéré. Amen. Dieu a le tracé de ma vie entre ses mains. Et tout est entre ses mains. Il veut être associé aux vœux que nous allons former ou formuler cette année, 2018. Il veut être associé à notre vœu de bonne santé, à notre vœu de prospérité. Dieu veut être associé à notre vœu ou à nos souhaits de richesse, de bonheur. Et les Ivoiriens, pour couper court, ils disent tous les bontés. Mais ça ne veut rien dire en réalité. Donc, ils vont dire tous les bontés. C'est-à-dire tout ce qui est prospérité, santé. Mais Dieu veut être associé à toutes ces choses-là. Pour que notre année 2018 puisse être à la gloire de son nom. Et pour finir, je voudrais lire 3 Jean 2. 3 Jean 2, où l'apôtre Jean qui parlait à son bien-aimé Gaius. Et c'est ce que je veux souhaiter cette année pour chacun de nous, pour chacun de vous. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc je veux te dire que je souhaite aussi, mon frère, ma sœur, que pour cette année 2018, que tu puisses prospérer à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère aussi l'état de ton âme. Que Dieu te bénisse. Merci.